Oh, du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Eh bien, chers frères, bien chers amis, la Sainte Église, aujourd'hui, en ce cinquième dimanche de la Pentecôte, après la Pentecôte, a choisi un thème très précis qu'on retrouve dans l'Évangile et dans l'Épître. L'Évangile, c'est une partie du sermon sur la montagne, chez Saint Matthieu. Et l'Épître, c'est Saint-Pierre, l'Épître de Saint-Pierre, au chapitre 1er, l'Épître de Saint-Pierre, au chapitre 3. Et l'Église a pris comme thème justement les péchés contre la charité. Exactement deux formes de vertu qui ne sont pas plus exactement qui sont des fruits du Saint-Esprit. L'Église a parlé de la charité et de la paix. La charité et la paix. Donc d'une part la charité et la paix, et d'autre part ce qui se passe quand il n'y a pas la charité et pas la paix. Et où il y a une vraie charité, une vraie paix, centrée sur notre Seigneur Jésus-Christ. Il y a une fausse charité, une fausse paix qui n'est pas centrée, qui ne sont pas centrées sur notre Seigneur Jésus-Christ. Et dans ce cas-là, au lieu de la paix, c'est la guerre, au lieu de la charité, c'est la colère. Alors évidemment, Jésus, notre Seigneur Jésus-Christ, dit ces choses-là juste avant de préciser, d'expliquer à ses disciples et à ses apôtres qui l'écoutent, au sermon sur la montagne, il va leur expliquer les béatitudes, et certaines de ces béatitudes vont s'adapter exactement à ces deux fruits du Saint-Esprit. La première, c'est la béatitude bienheureux des pacifiques, bienheureux les artisans de paix, car ils deviendront les enfants de Dieu. Et bienheureux les doux, parce qu'ils posséderont la terre. En fait, ces deux béatitudes magnifiques, vont se travailler ensemble, parce que quand notre Seigneur Jésus-Christ est bienheureux, les artisans de paix deviendront enfants de Dieu. Pourquoi est-il cela? Parce que il a dit, si vous ne devenez pas comme un petit enfant, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Et les enfants ne font pas la guerre, c'est les adultes qui font la guerre. Donc les enfants, par nature même, ne veulent pas la guerre, ils veulent le contraire, plutôt jouer avec les autres enfants. Donc si nous devenons comme des petits enfants, c'est-à-dire si nous gardons notre cœur pur comme le cœur des enfants, et bien à ce moment-là, le royaume des cieux sera à nous. Et la deuxième béatitude, bienheureux les doux, par ils posséderont la terre. De quelle terre il s'agit? La terre promise? La terre promise spirituelle? Quelle est cette terre promise spirituelle? La terre promise spirituelle, eh bien, c'est tout simplement le paradis. Donc, qu'est-ce que nous dit notre Seigneur Jésus-Christ? Notre Seigneur Jésus-Christ nous dit, si vous gardez la charité, si vous gardez les conséquences de la charité en vous, posséderez le royaume des cieux. C'est ça qu'il nous dit. N'oublions pas que La charité n'est pas simplement un fruit du Saint-Esprit. Quand vous prenez la liste des fruits du Saint-Esprit, elle se trouve dans Saint Paul, au Galates chapitre 5. Le premier qu'il donne, c'est la charité. Immédiatement après, il y a la paix. La charité est aussi une vertu théologale, attention. La vertu théologale par laquelle je m'engage avec la vertu de charité, je m'engage justement à obéir au bon Dieu, obéir à sa loi, donc à suivre ses commandements. Donc tout va être centré justement à la fois sur cette charité. Et si j'ai la charité, à ce moment-là, va se dérouler, si vous voulez, toute cette longue liste de conséquences de la vertu de charité en nous. Attention, il faut bien comprendre ce qu'est la vertu de charité, il ne faut pas comprendre de travers. La vertu de charité, c'est quoi? C'est d'abord l'état de grâce. Il n'y a pas de charité, et si je ne vis pas l'état de grâce. Et pas celui qui dit Seigneur, Seigneur, qui entrera au royaume des cieux, mais celui qui écoute la parole du bon Dieu, qui la met en pratique, dit notre Seigneur. Donc la première condition pour avoir la charité en nous, c'est l'état de grâce, c'est évidemment de suivre les commandements du bon Dieu. Hein, si je prétends avoir la charité, mais que je vis dans le péché jusqu'au cou, il est évident que je n'ai pas la charité. Si j'ai la charité, à ce moment-là, la couronne de la charité va immédiatement venir se placer sur ma tête. Qu'est-ce qu'il y a dans cette couronne de charité? Mais il y a toutes les vertus infuses. Il y a les béatitudes, il y a les dons du Saint-Esprit, et il y a les fruits du Saint-Esprit. C'est pour ça qu'une des premières façons de voir que quelqu'un a véritablement la charité surnaturelle en lui, c'est précisément de voir le premier des fruits du Saint-Esprit qui est sur la liste des fruits du Saint-Esprit donnés par Saint Paul après la charité, à savoir la paix. Pas de paix, pas de charité. Pas de charité, pas de paix. Bon, bien sûr, il peut y avoir la paix du monde, mais la paix du monde n'a rien à voir avec la paix de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, quelles sont les conséquences de cela dans notre vie de tous les jours? Eh bien, La paix, dit saint Thomas d'Aquin, il y a une très belle définition de la paix. Et la paix, c'est la tranquillité de l'ordre. La guerre, c'est quoi? C'est le désordre. Lorsqu'il y a de l'ordre dans une société, lorsqu'il y a de l'ordre entre les différents corps intermédiaires de cette société, à ce moment-là, il y a la tranquillité, donc la paix. Lorsque le bon Dieu a créé Adam et Ève, vous le savez sans doute, quand le bon Dieu a créé Adam et Ève, il leur avait donné des dons spéciaux. Simplement pour eux. Il leur avait donné l'impassibilité, l'immortalité, la science infuse, mais il leur avait donné aussi et surtout l'intégrité. Qu'est-ce que c'est que cette intégrité? Mais cette intégrité, c'est justement la paix. Intégrité, ça veut dire quoi? Ça veut dire un ordre entre les différentes passions de l'âme, entre les différentes structures de l'âme, les différentes qualités de notre âme et le monde humain. C'est-à-dire que les passions chez Adam et Ève étaient dominées par la volonté était dominée par l'intelligence, et l'intelligence était dominée par le monde humain. Et donc il y avait ce don d'intégrité. Le don d'intégrité, c'est ça, c'est la paix. La tranquillité de l'ordre, c'est l'intégrité. Malheureusement, le bon Dieu avait voulu aussi donner un autre don à Adam et Ève, un don qui se serait bien passé parce que ce don ils l'ont très mal utilisé. Le bon Dieu avait donné à Adam et Ève le don de la liberté et ils l'ont utilisé de travers. Et évidemment, comme Dieu avait dit, vous pourrez toucher et manger tous les fruits de l'arbre, des arbres du jardin, sauf le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ils ont désobéi parce qu'ils laissaient des conséquences. Les conséquences, elles sont là tous les jours devant nous. Alors, si la charité disparaît, l'intégrité va disparaître. La tranquillité de l'homme va disparaître. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui arrive immédiatement? C'est le désordre. Le message de la révélation, c'est le message de l'ordre. Le message de la révolution, c'est le désordre. L'intégrité disparaît, évidemment, puisque de toute façon, nous avons perdu ce privilège de l'intégrité après le péché originel, et même le baptême, si le baptême efface le péché originel, le baptême ne rend pas les dons paternaturels, attention. Donc pour nous, quand nous perdons l'état de grâce, mais qu'est-ce qui se passe? On perd immédiatement la paix. Donc le désordre revient de nouveau dans l'âme. Une espèce de combat spirituel. C'est pour ça que c'est parfois difficile. C'est ce qu'on appelle le combat spirituel. Je conseille beaucoup, si vous avez parlé, de lire le magnifique livre de Scupoli, qui s'appelle justement le combat spirituel. Un grand classique passé, mais qui n'a pas pris une ride. Eh bien, qu'est-ce que c'est que cette révolution? Cette révolution, ça sera justement le désordre qui s'introduit dans l'âme. Les passions vont refuser la supervision de la volonté va se révolter contre l'intelligence et l'intelligence contre la loi du bon Dieu. Donc qui dit intégrité dit ordre, dit paix, qui dit guerre dit immédiatement guerre spirituelle, dit immédiatement justement cette absence d'intégrité, c'est-à-dire le désordre qui s'introduit dans l'âme. Est-ce qu'une âme dans le désordre peut aller vers le bon Dieu? Possible. Une âme qui est en plein désordre, justement, est attirée vers les choses de la terre et va vivre dans le péché, va se traîner dans le péché, va se traîner dans le péché comme un serpent qui serpente dans la boue. Au contraire, une âme qui retrouve l'ordre que le bon Dieu a voulu mettre dans une âme va immédiatement lever les yeux vers le ciel et va aller ce paradis où un jour le bon Dieu le prendra s'il a la grâce de pouvoir mourir malgré ta grâce. Donc il faut se poser cette question toute simple, est-ce qu'il y a de l'ordre dans mon âme? Parce que pourtant il y a le désordre. Et comment retrouve-t-on l'ordre? Si on est dans le désordre, on retrouve l'ordre, bien sûr, par le sacrement de pénitence. Si le bon Dieu nous a donné le sacrement de pénitence, le sacrement de la confession, c'est précisément pour cela une âme qui, avec humilité, se met à genoux devant le ministre du bon Dieu en disant « Pardonnez-moi mon Père parce que j'ai péché » et qui expose ses péchés avec contrition, avec une accusation complète, avec une ferme résolution de ne pas recommencer, avec un désir de réparer les péchés commis. Eh bien, c'est une âme qui va tout de suite recevoir le pardon du bon Dieu, et avec le pardon du bon Dieu, elle retrouve l'ordre. Donc elle retrouve la paix. Et il est intéressant de voir que dans le monde entier, il parle toujours de paix et de charité, alors qu'il n'y en a jamais. Il n'y a jamais autant de guerre qu'aujourd'hui, il n'y a jamais de manque de charité qu'aujourd'hui. Et la vraie charité, c'est quoi? La vraie charité, c'est justement comprendre que le bon Dieu doit être au centre de ma vie. L'absence de charité, c'est quoi? C'est le contraire. L'absence de charité, c'est introduire le désordre. Donnez un exemple de fausse charité. Tout le monde parle actuellement, dans tous les journaux, dans tous les internet, partout actuellement, ils parlent de Simone Veil. Simone Veil. Et puis c'est la soi-disant charité humaine, magnifique, extraordinaire, femme extraordinaire qui va être mise au Panthéon. Cette femme a 10 millions de morts, 10 millions de meurtres sur la conscience. C'est elle qui a fait passer la hauteur en France. 10 millions de meurtres sous la conscience. Et la fausse charité, c'est ça. La fausse charité, c'est une charité mortifère, une charité qui tue les âmes. Il y a 10 millions de bébés qui n'iront jamais voir le bon Dieu à cause de ces meurtres. Bon, certes, elle n'est pas la seule à avoir la responsabilité. Les politiciens qui ont accepté de signer ces lois sont bien aussi responsables. Mais c'est quand même elle qui a malheureusement amené cette loi mortifère dans le monde. Donc la fausse charité amène la mort, la vraie charité amène la résurrection et la vie éternelle. Le deuxième point qui est dans cette épître, dans l'évangile, est un point bien difficile à pratiquer. Le bon Dieu nous demande de pratiquer le pardon des offenses. Que c'est difficile. Lorsque le bon Dieu pardonne les péchés nombreux que nous commettons, non seulement il les pardonne, mais c'est un grand degré de charité qui revient dans cette âme, il les oublie en même temps. Le bon Dieu pardonne. Le bon Dieu pardonne, ce n'est pas seulement des mots, il pardonne réellement les péchés. La grande différence qui existe entre le protestantisme et le catholicisme. Les protestants, ils n'ont pas de confession. Ils n'ont pas de moyen d'effacer leurs péchés. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que, imaginez hein, quelqu'un qui porte, qui a un sac à dos, qui remplit son sac à dos tous les jours de cailloux qui viennent de plus en plus lourds. Et pour eux, qu'est-ce que fait notre Seigneur? Si je crois notre Seigneur en Dieu, disent-ils, bien le sang, Dieu va couvrir mes péchés de son sang. Et les péchés sont toujours là, les cailloux sont toujours dans le sac. Et plus j'avance, plus le sac devient lourd. Pour nous, ce n'est pas du tout comme ça. Pour nous, catholiques, nous savons que notre Seigneur Jésus-Christ ne couvre pas nos péchés avec son sang. Il est détruit. C'est-à-dire que si j'utilise avec les qualités nécessaires au sacrement de pénitence, puis après le sacrement de la Sainte Eucharistie, eh bien le bon Dieu non seulement efface nos péchés, mais va même jusqu'à les oublier. Et donc il nous demande le pardon des offenses. Ceci sont des mots que nous répétons tous les jours, mais il faudrait peut-être répéter en comprenant ce que ça veut dire. Pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Souvent on s'appelle que la première partie de la phrase, pardonnez-nous nos péchés, mon Dieu. Mais la deuxième partie, il ne faut pas oublier. Le bon Dieu nous dit en quelque sorte, je vais vous pardonner vos péchés si vous pardonnez à ceux qui vous ont offensé. Si je me présente au tribunal de la pénitence et que je dis un jour au prêtre qui écoute ma confession, oh mon Dieu, mon Père, pardonnez-moi tous mes péchés. Mais je garde dans mon cœur plein de haine contre le prochain. Comment puis-je prétendre recevoir le pardon de mes péchés? Ce que dit notre Seigneur dans l'évangile d'aujourd'hui. Elle dit, si tu vas te présenter à l'autel et que tu as quelque chose contre le prochain, dépose au pied de l'autel ton offrande, va d'abord te réconcilier avec le prochain, puis viens et offre ton offrande. Sinon c'est une offrande hypocrite. Et comme il faut bien comprendre ces choses-là qui sont absolument fondamentales. La troisième conséquence, à mon avis, elle est dans le fait que s'il y a dans la société la vraie paix et la vraie charité, c'est-à-dire s'il y a dans la société l'amour du bon Dieu et le respect des commandements du bon Dieu, évidemment maintenant c'est un peu un rêve malheureusement puisqu'il n'y a pratiquement plus de pays comme cela, eh bien à ce moment-là, le bon Dieu va devenir véritablement devenir le centre même de toute cette société. C'est-à-dire que la conséquence du fait qu'il y a dans une société la paix de notre Seigneur Jésus-Christ, la charité de notre Seigneur Jésus-Christ, sera ce qu'on appelle le règne social de notre Seigneur Jésus-Christ. S'il y a la paix de Dieu, s'il y a la charité de Dieu, s'il y a la tranquillité de l'ordre, s'il y a l'état de grâce habituellement dans la société, parce que justement l'Église fait son travail, parce que les prêtres font leur travail, parce que les gens se battent pour rester en état de grâce, à ce moment-là, notre Seigneur Jésus-Christ vient prendre la tête de la nation. On appelle le règne social de notre Seigneur Jésus-Christ. Évidemment, aujourd'hui, les gens ont beaucoup de mal à comprendre ces choses-là, parce que malheureusement, on vit dans un monde laïque, un monde qui ne veut plus du bon Dieu. Il ne faut pas oublier une chose, c'est que la laïcité, ça n'existe pas. On adore toujours quelqu'un. Si on refuse le vrai Dieu à adorer, on va adorer les faux dieux. On est bien obligé d'adorer quelque chose, ou quelqu'un. Et donc, si on refuse, on rejette notre Seigneur Jésus-Christ, c'est ce que fait la société moderne. On a mis le bon Dieu dehors, mais à la place du bon Dieu, quelqu'un qui est arrivé, qui va prendre la place, qui s'appelle le démon. Donc ce n'est pas une société laïque, c'est une société démoniaque. C'était qui adore le démon. Regardez les conséquences devant vous. Les 10 millions de morts, les 10 millions d'enfants tués dans le sein de leur mère, c'est une conséquence justement de cette société mortifère. Alors, il faut vraiment comprendre, comprendre cela, où je suis notre Seigneur Jésus-Christ, où je me bats pour qu'au moins dans ma famille, au moins dans mon cœur, notre Seigneur Jésus-Christ soit au moins dans mon cœur, ou alors je laisse les portes grandes ouvertes pour que le démon prenne la place. Il ne faut pas dire, mais monsieur l'abbé, tout ça c'est des rêves, le règne social de notre Seigneur Jésus-Christ n'est plus possible. Et bien, si le règne de notre Seigneur Jésus-Christ n'est plus possible, il n'est plus possible pour les sociétés modernes de durer. C'est ça la réponse. C'est la réponse qu'a donnée Cardinal Pio Napoléon III. Quand Napoléon III lui avait dit, mais Monseigneur, voyons, vous demandez un retour au principe de l'Évangile, mais toutes ces choses-là sont possibles dans le monde moderne. Et c'est le grand évêque de Poitiers, Cardinal Pio Napoléon, avait répondu, si il n'est plus possible pour notre Seigneur Jésus-Christ de régner, alors il n'est pas possible pour votre gouvernement de durer. C'est exactement ce qui s'est passé, ça n'a pas duré longtemps. Et donc il faut demander au bon Dieu justement toutes ces grâces dont nous avons besoin. Ces grâces retrouvées par le sacrement de pénitence, par le sacrement de la Sainte Eucharistie, le don d'intégrité d'une certaine façon. La grâce de pouvoir remettre notre Seigneur Jésus-Christ, si je ne peux pas malheureusement le remettre dans la société, au moins le remettre dans ma famille. Au moins que notre Seigneur Jésus-Christ soit roi de mon cœur, roi des cœurs de mes enfants, roi des intelligences et des volontés de mes enfants, roi des passions de mes enfants, parce qu'il est moi-même, parce que justement je veux que notre Seigneur Jésus-Christ soit véritablement roi de la petite société dont j'ai la charge, à savoir ma famille. Et si malheureusement ce n'est pas possible dans la famille, au moins dans notre cœur. Notre cœur c'est un lieu, attention. Et dans ce royaume, il y a un prince, et ce prince dans notre royaume, c'est notre âme. Bien sûr, au-dessus, il y a encore un grand prince, bien plus grand que ce prince qui dirige ce royaume, à savoir le bon Dieu lui-même. Et donc, si j'accepte de reconnaître notre Seigneur Jésus-Christ comme roi de la maison, alors à ce moment-là, la paix va revenir, alors la charité va vraiment revenir. Il est intéressant de voir que pendant cette période liturgique, eh bien, l'Église propose à la méditation des prêtres, c'est dans le bréviaire. Dans le bréviaire, tous les jours, on a une partie de l'Écriture sainte. En ce moment, c'est l'histoire de David et Goliath, pas pour rien. David et Goliath, donc, pour bien nous expliquer qu'il y a une guerre qui est malheureusement nécessaire à cause du péché. Cette guerre nécessaire, elle est justement symbolisée par cette guerre continuelle dans laquelle le peuple juif de l'Ancien Testament a dû vivre pendant des années et des années, justement, avant de pouvoir rentrer en Palestine, en terre promise. Et donc l'Église nous donne comme méditation l'histoire du combat du peuple juif contre les Philistins. Il était comme une nuée de sauterelles, dit l'Écriture sainte. Une nuée de sauterelles. Ils envahissaient tout, ils détruisaient tout, ils cassaient tout. Et notre Seigneur Jésus-Christ, justement, va utiliser, alors que humainement parlant, il n'y a plus qu'une solution, les Juifs sont complètement découragés. En plus de ça, ils ont essayé de provoquer un combat entre deux soldats, un choisi par les Juifs et un choisi par les Philistins. Et les Philistins ont choisi un homme, un géant extraordinaire. Je n'ai pas eu le temps de vérifier les chiffres dans nos systèmes français. Mais si mes souvenirs sont exacts, il fait 2,60 m de haut et la pointe de sa lance pesait 14 kilos. Bon. Devant cette espèce de géant devant lequel tout le monde tremblait, personne n'osait se présenter. Et mon Dieu va aller chercher un adolescent de 17 ans. Comme ça, je me rappelle. David. Alors, il met une armure sur le dos, il n'est pas capable de la porter parce que l'armure est beaucoup trop lourde pour lui. Il dit non, moi je prends les choses que je connais bien. Il prend sa fronde et 5 petits cailloux d'eau dans le torrent, c'est tout ce qu'il prend. Et il se présente devant notre Seigneur Jésus-Christ, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, au nom de ce Dieu, ce vrai Dieu que vous avez offensé. Il fait tourner sa fronde, et la fronde, le caillou va frapper le front de Goliath qui tombe, évanoui par terre, et David va lui couper la tête. Et les pères de l'Église font remarquer que ce front n'était pas protégé par la croix. Lors du baptême, plusieurs fois, le prêtre va faire le signe de croix justement sur le front, parce que le front, c'est le symbole justement de la tête qui abrite l'intelligence, qui abrite l'âme. Et donc le front n'était pas protégé par la croix. Cet homme, ce Goliath, était un symbole du païen qui n'est pas protégé par le baptême. C'est le baptême seul qui fait de nous des enfants de Dieu. Donc ce n'est pas un enfant de Dieu. Et justement, il était détruit par la puissance du bon Dieu. Les 5 petits cailloux représentent l'Écriture sainte, disent les pères de l'Église. C'est les 5 livres de l'Ancien Testament. Vous voyez? Et c'est un peu notre situation actuelle. On est, les pauvres catholiques que nous sommes aujourd'hui dans le monde moderne, un peu complètement comme une petite souris devant un rouleau compresseur, en quelque sorte. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? On a tout contre nous, on a le gouvernement contre nous, on a toutes les lois contre nous, on a tout le monde contre nous. Nous sommes une petite poignée de gens qui sont vivants à l'état de grâce. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Compter sur bon Dieu. Exactement comme David, compter sur le bon Dieu pour vaincre Goliath, exactement comme Sainte Jeanne d'Arc a compté sur le bon Dieu pour, à 17 ans, aller bouter les Anglais hors de France et consacrer le dauphin Charles comme roi légitime du pays et protéger la France du protestantisme. N'oublions pas que si le bon Dieu n'avait pas suscité Sainte Jeanne d'Arc, on serait tous protestants. Elle est morte en 1431 et 90 ans plus tard, c'était la révolte de Luther. Et donc l'apostasie d'Angleterre qui passe au protestantisme. Demandons, mes chers frères, demandons au bon Dieu toutes ces grâces dont nous avons besoin. Demandons ces grâces de savoir par le sacrement de pénitence, par le sacrement de la Sainte Eucharistie, de savoir trouver de nouveau l'intégrité, de savoir retrouver l'ordre au service du bon Dieu. Demandons cette grâce de savoir pardonner les offenses de ceux qui nous ont offensés. Et comme le bon Dieu justement nous pardonne nous-mêmes à chaque fois que nous allons nous confesser. Et demandons à ce que notre Seigneur Jésus-Christ soit vraiment le roi de ma mort, le roi de mon âme, le roi de mon âme par nature parce qu'il est Dieu, mais aussi par conquête parce qu'il est mort pour moi sur la croix. Et donc il a un droit sur mon âme. Notre Seigneur Jésus-Christ a un droit sur mon âme à cause du caractère du baptême qu'il a mis sur mon âme le jour de mon baptême. Nous demandons toutes ces grâces, bien sûr, par l'intermédiaire de la Très Sainte Vierge Marie. N'oublions pas que la Très Sainte Vierge Marie, justement, est la médiatrice de toutes les grâces. Elle est co-rédemptrice du genre humain. Donc elle est au pied de la croix et elle fait tout ce qu'elle peut pour aider son Fils à mourir pour nous sur la croix. Et donc il faut passer par elle. Donc si nous avons du désordre dans nos âmes, si nous voyons que notre âme n'est pas aussi blanche qu'elle devrait être, passons par elle pour nous approcher de son Fils. Le cœur immaculé de Marie est le chemin le plus court qui conduit au cœur sacré de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà les grâces que nous demandons pendant cette sainte messe. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.